Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h. Le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 16h05. On y revient au Mastic. On est dans le Super Moscato Show comme tous les jours de 15h à 18h. Stifou Nébrin et Thévenot. Oui. Adrien Gouin. Et là aussi, bien entendu, Pierrot Dorian, nous accueillons, comme on dit en Espagne, El Periblo. El Periblo Rico del Prado.
Salut Eric.
Comment ça va?
Comment ça va, Vincent? Salut Steve, salut. Bonjour, Pierrot, Eric. Salut Adrien.
Il t'a énervé,
va,
hein, les amis. Eric,
hein. Ah ouais, c'est dingue, hein.
Oui, non, mais je suis gardé mon calme. Je suis être zen, comment on dit. Zen, yoga.
Je voulais donner un petit coup de pouce à une association de mon village, Taillade de Loisirs, qui organise demain la Ronde des Vins, donc au Moulin des Taillades. Il y aura une exposition de vieilles voitures, notamment des Porsche.
Ah, voilà. Ça marche, ça, ah, carton,
et,
ça marche.
Et ça. Ouais, c'est très sympa. Et puis, voilà, avec modération, il y aura quelques bonnes bouteilles à.
T'amènes voilà. Les tiennes, les Porsche quoi. T'amènes les tiennes, Eric?
Je sais pas, moi j'ai rien. Moi, j'ai
Ah bon, t'as rien, je crois que Pierrot m'a dit qu'un jour, il avait conduit une voiture qui t'appartenait, qui était plutôt sympa.
Mais bon. J'ai une petite Smart, moi. Pierrot, il a conduit la Smart.
T'as fait attention, Pierrot, quand t'as conduit la voiture d'Eric? T'as l'impression, non?
Ouais, parce que moi, j'ai pas l'habitude des boîtes électriques.
Des boîtes automatiques de la Smart.
Des boîtes, oui, automatiques.
Ah, t'as plus l'habitude des boîtes automatiques?
J'ai pas l'habitude, je conduis jamais d'automatique.
Ah ouais, Pierre?
Jamais.
C'est exceptionnel.
Il suffit d'appuyer sur l'accélérateur, quoi.
Ah, t'es un ancien de Pierrot, toi, t'es un ancien de craquer.
Ouais, la première, deuxième.
Toi, t'es un cadeau d'oche avec le.
Pierrot, il a bien passé les vitesses, Eric.
Ah ouais, il a bien passé les vitesses, Pierrot. J'ai remarqué. La dernière fois que je me suis mis à côté de lui dans le studio, crac, il a passé la première, j'ai dit, ça, il faut que ça s'arrête.
T'imagines un jeune là qui conduit une 4L avec les vitesses au tableau de bord.
C'est impossible.
Ça va être compliqué. Et le mieux, les vitesses au guidon.
Ouais, avec le petit levier là qui est passé les vitesses au volant carrément.
Ouais. Ça doit être
un
homme faire.
J'ai un petit message, Vincent, de Fabien qui organise, on va lui rendre hommage au rugby, on est la seule émission qui parle de rugby tous les jours, un tournoi de rugby à 5. C'est les Charnegousses qui organisent ça.
Il y a bien le Biarritz, tu crois qu'il va y aller?
Un tournoi de rugby à 5 des Charnegousses.
Ils sont sur les pics.
L'endroit est mythique, ça se déroule dans les arènes de Dax. C'est Fabien qui m'a dit passer le message. C'est demain, c'est le samedi 6 juin, tournoi de rugby à 5, ça doit s'envoyer.
Et à l'apéro. Ouais. Et le premier prix pour l'équipe qui gagne, c'est une encyclopédie, pareil.
Roland Garros.
Et tu sais quoi, il y a un truc très précis, c'est qu'il lâche des vachettes au milieu de la partie.
Voilà, elle crève le ballon.
C'est génial. Allez, Zverev face à Mensik en demi-finale, Eric et Sarah.
Bientôt 1h30 de jeu et c'est vrai que Sacha Zverev dégage une impression de sérénité. 7-5, 4-2 pour l'Allemand et Mensik est déjà en difficulté sur sa mise en jeu, Sarah, puisqu'il y a 15-30. Il a l'air un peu à court de solution.
Ouais, il a pris un coup sur la tête, le Tchèque. Il fait un service volé, il se fait transpercer au retour et voilà, deux nouvelles balles de break pour Alexander Zverev qui se détacherait à 5 jeux à 2, service à suivre. Autant vous dire que la deuxième manche serait.
C'est la chance de sa vie, Zverev.
Il ne fait pas douter.
Je pense que.
Il ne faut pas la rater, celle-là.
Il le sait, et s'il s'en sort encore en 3-7, il aura fait un chemin vers la finale quasiment parfait, sans perdre d'énergie sur les tours. Et forcément, il arriverait en grand favori de cette finale. Ah non, elle est sauvée avec un petit duel.
7-5, 4-2, 30-40. On programme tout de suite vélo, ensuite foot à 17h. C'est que vaut cet avertissement, l'équipe de France battue par la Côte d'Ivoire. D'abord, attendez-vous une victoire de Paul Sexas sur le Dauphiné. Vincent règle le problème. Nous aurons un journal moyen, deuxième édition. Oui. À 16h45.
Du Manu Petit qui est de retour. Manu, il va nous parler de cet entraîneur belgeo-britannique, le jeune de 33 ans, Will. Mmh. Et Will, comment, Manu? Rendez-vous à 16h45. Vous allez vous mettre à la place de Deschamps.
C'est Benny Will.
Oui, on va parler en bégayant.
Vous allez devoir te trancher à la place de Deschamps parce qu'il y a des joueurs d'équipe de France qui veulent négocier quelque chose avec lui concernant la NBA. Vous allez prendre la décision à la place de Didier Deschamps à 16h45.
Il va y aller.
Jules Koundé va tout vous dire à 16h45.
Bravo Jules.
Et puis je vous rappelle que toutes les demi-heures, on vous offre un album Panini avec 350 images à coller. Vous envoyez Panini par SMS au 7-32-16. Le Kikadi, c'est un séjour d'une semaine pour 4 personnes dans un des VVF de France, au plus proche de la nature, du temps pour vous retrouver en famille, partager du sport ou des activités culturelles.
C'est Florent Rang qui collectionne les Panini.
Ça fait petit caddie par SMS au 7-32-16. Et tout de suite, dimanche, c'est le retour de Paul Sexas.
La route en a vu passer des pelotons.
Derrière lui, eh bien, on retrouve Mathieu Van Der Boel.
On y a applaudi des Hino, Lemon, Froome à toute vitesse.
Le maillot groupe à moi,
à quelle vitesse?
Mais personne n'y a jamais levé les bras.
Je ne me suis pas fixé un objectif précis, vraiment donner le meilleur de moi-même.
La course s'impose chaque année comme une répétition générale de la grande boucle.
Une image assez...
avec les meilleurs coureurs du globe.
La machine à gagner de Pogacar a mis ses gamins
comme un mini Tour de France entre petits villages.
Je suis un peu embrouillé, emmêlé les pédales.
Col mythique et grande fête populaire.
Il y a un chrono qui va, mais qui avance à pas. Aller chercher la petite bête.
Moscato, il va te le régler le problème.
La petite bête de Christophe Cessieux, c'est Jérôme Pinault, je crois, sur RMC. Salut Jérôme.
Salut Jérôme.
Salut Jérôme.
Salut,
Jérôme.
Toi, tu le taquines, Christophe Cessieux, Jérôme, non?
Surtout, je me le coltine. Et avant de le taquiner, donc je passe un mois avec lui. C'est vrai que des fois, sur la fatigue, après le repas, après nous, on fait attention parce que tu sais, après le lendemain, il est là, il prend la bagnole pour rentrer, pour mettre le casque, tu vois, donc on l'épargne un peu.
Alors, on va parler du Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes, que vous connaissez mieux sous le nom de Dauphiné, voire Critérium du Dauphiné. Départ dimanche, 8 jours de course, répétition générale du Tour de France. Au départ, Sexas, Del Toro, Ayuso, Almeida, Cosnefroy, Vauclin. Tout le monde est là, sauf Evenepoel, Pogacar et Vingegaard. Et surtout, tout le monde est là en mode course. Et c'est traditionnellement la répétition générale pour le Tour de France. Ce sera la dernière course de Sexas avant le Tour. Donc cette année, en plus, l'arrivée est au plateau de Solaison, comme l'arrivée de la 15e étape du Tour de France. Attendez-vous tout simplement une victoire de Paul Sexas sur ce Dauphiné 32-16. Il a dit tout simplement, Paul, je vais viser la victoire. Voilà, c'est très clair. Vincent, est-ce que tu l'attends forcément vainqueur du Dauphiné?
Ben, on a envie, quoi. On a envie de le voir confirmer cette saison qu'il a faite, qui est extraordinaire. Il nous a surpris, il nous a tous surpris. Enfin, on savait qu'il avait des qualités, mais il nous a surpris. Donc, c'est le seul à pouvoir tenir Pogacar. Donc, on veut qu'il gagne celle-là juste avant le Tour de France. C'est marqué encore un grand coup. Il les a déjà marqués, les coups. Mais là, s'il gagne juste avant, ça veut dire que il a pas froid aux yeux. Ça veut dire que, tu vois, il est costaud.
C'est surtout qu'il y a tous les outsiders du Tour derrière Pogacar et Vingegaard. Ouais. Donc s'il n'est pas le meilleur des outsiders, on peut se poser
non, parce qu'il ne sera pas loin. De toute façon, il va être dans le coup. Il va être dans le coup. S'il n'était pas dans le coup, qu'il finisse 15e, qu'il finisse loin, ça serait pas pareil. Mais s'il finit dans le coup, après, qu'il le gagne, c'est peut-être pas, mais qu'il soit dans le coup. Voilà, ça serait extraordinaire. Ça serait un message fort, toi, qu'il fasse une course avec avec Vingegaard, ça serait une course très 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 disputée. Ça serait exceptionnel. Juste avant le Tour, ça nous mettrait en haleine.
Le deuxième set est bouclé pour Alexander Zverev face à Jakub Mencik, Eric Sarra.
Ouais, 7-5, 6-2. Il est impressionnant, Zverev, et on voit que Mencik pique un peu du nez. Je sais pas s'il aura les ressources pour pas sauver cette demi de l'ennui, je vais pas dire ça, mais essayer de grignoter ce retard, mais ça me paraît compliqué, Sarah.
Oui, ça paraît très compliqué parce que il est monté tranquillement en puissance. Zverev, peut-être qu'il a aussi lui une forme de confiance qui fait que même s'il était bousculé en début de première manche, eh bien il n'a pas paniqué. Il a sauvé tranquillement les balles de 7 et il a inversé la tendance. Et là on voit qu'il est plus fort sur tous les compartiments du jeu. Service, le coup droit où il a fait quelques erreurs dans la première manche, il a réglé la mire. Et puis là, il appuie, il joue plus vite, il frappe plus fort. Et on sent un Zverev qui n'est pas très loin d'aller chercher le Graal. Celui qui
C'est sa deuxième finale déjà ici. Allons doucement.
Oui, c'est sa deuxième.
Toi, tu vois déjà plus loin, toi.
Je vois déjà plus loin parce que je vois les adversaires, monsieur Eric Salio, qui sont largement à sa main. Donc voilà, en tout cas, on
Koboli l'a battu récemment à Munich. Koboli l'a battu à Munich.
Il sera quand même favori.
Mais Koboli n'est pas encore en finale.
Favori, bien sûr.
Voilà. C'est Arnaldi Koboli, la deuxième demi.
Exactement, à partir de 19h.
Si vous nous rejoignez, il y a 2-7-0 pour Zverev, il n'y est pas encore. Alors, est-ce que vous attendez une victoire de Paul Sexas, Eric Dimeco?
Une victoire, non. Enfin, moi, c'est débat où on exige la victoire. Je trouve toujours ça bizarre.
C'est pas exigé, c'est
moi, je trouve. Non, mais j'ai compris. Mais si tu veux, moi, je trouve que Sexas, pour sa première saison, on va dire en leader d'équipe, il a déjà fait le job, quoi. Il a déjà fait le job. Il a gagné des courses. Il nous a impressionnés au point que on a fait beaucoup de débats sur lui et savoir jusqu'où il peut aller. Moi je sais pas, j'attends il y a Jérôme avec nous, hein.
Oui, Jérôme Pinot est là.
Voilà, donc voilà. J'attends justement l'intervention de Jérôme pour savoir un peu parce que quand tu te prépares pour le Tour de France, je suis pas sûr que tu sois obligé de courir à fond pour gagner certaines courses avant, tu vois. Je pense que dans la préparation, il y a peut-être une gestion de certaines courses. Donc il nous expliquera sûrement ça. Alors peut-être que c'est le moment pour se donner à fond pour essayer de la gagner. Et ensuite, si il fait ça, qu'il soit à la lutte comme on le voit depuis le début de la saison finalement, où il est là, quoi. Alors quand il gagne pas et qu'il est derrière Pogacar, on sent que il manque pas grand-chose. Il manque pas grand-chose, c'est-à-dire peut-être un peu plus de coffre parce que il y a une grosse différence d'âge malgré tout, et peut-être de l'expérience, peut-être de la roublardise, ça existe dans le vélo, mais s'il est à la lutte un long moment, ça veut dire qu'il est toujours en grande forme, mais on l'a vu en grande forme. Donc moi je suis pas très très inquiet, et j'aimerais savoir sur ce genre de course si on se donne à fond ou si il y a une gestion par rapport au Tour de France, parce que c'est quand même une course particulière, il faut peut-être pas brûler trop de force avant le Tour de France.
Stephen.
Alors, on parle pas d'exigence. C'est vrai qu'il disait, on exige des victoires. On espère. Après, moi, tout ce qu'on entend depuis Paul Sexas en 2026, tous les plus grands coureurs cyclistes, et même Jérôme nous le dit, que c'est le troisième meilleur coureur du monde.
Mais tu dis pas même, tous les plus grands coureurs
cyclistes. J'ai pris pour moi, et même
Jérôme.
Tous les grands coureurs cyclistes, dont Jérôme, tu dis.
J'ai fait une erreur de syntaxe, je m'en excuse Jérôme, mais donc tous les plus grands coureurs dont Jérôme Pinot et même Jérôme Coppel, donc pour le coup, nous disent que c'est le troisième meilleur coureur du monde cette saison 2026, derrière Pogacar et Vingegaard. Les deux garçons sont pas là, donc moi j'aurais tendance à dire oui, j'espère une victoire de Paul Sexas, puisque tous les garçons qui seront alignés sur ce Dauphiné, parce qu'on va continuer à l'appeler de Dauphiné, sont des garçons qui sont aussi en préparation pour le Tour de France. Je veux dire, il n'y a pas un mec, Del Toro, Skelmos, Almeida, Ayuso, ils ne sont pas en préparation pour dire il faut gagner le Dauphiné. Ils sont tous en prévision de performer pour le Tour de France. La team CMA-CGM qui va être alignée, j'ai l'impression que c'est la même équipe qui est plus ou moins qui va être là aussi pour le Tour de France, donc il va être bien épaulé. L'année dernière, il le fait, cette course-là, il fait 8e à 8 minutes de Pogacar. J'ose espérer que cette saison, avec sa progression, sans Pogacar et son statut, parce qu'il a le statut de favori, qu'il fasse éventuellement qu'il le gagne, ou à minima qu'il fasse un podium. Mais moi, je ne l'attends pas en deçà de la troisième place, Paul Sexas.
Alors, Jérôme Pinot, quel est ton avis sur cette question? Est-ce que tu l'attends remporter le Dauphiné?
Moi, vu tous les avis autour de la table des grands sportifs et même de Stephen Brun, j'ai l'impression qu'on est à peu près non, on est tous d'accord sur le fait que dans la planète cyclisme aujourd'hui, il y a deux coureurs qui dominent, ils s'appellent Pogacar et ils s'appellent Vingegaard. Ils sont pas invités, ils sont pas là sur le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes, et donc Paul Sexas, avec ce qu'il nous a montré jusque là, sa supériorité par rapport aux autres, il a déjà rencontré les autres outsiders tels que Ayuso ou Del Toro, il les a pliés. Donc évidemment qu'on fait de lui le favori de la course, évidemment qu'on serait un peu déçu et surpris qu'il soit pas dans le coup. Maintenant, il peut aussi faire deux à quelques secondes d'un Ayuso qui depuis deux mois n'a pas couru et a besoin de se rassurer. Quant à la confirmation et au besoin de performer pour Paul, il est en grande forme. On a des infos venant de son équipe. Il sort du stage en altitude en Sierra Nevada avec son jeune âge. Un moteur exceptionnel qui fait que dès qu'ils vont en altitude, eh ben ce moteur est encore plus fort. Il est prêt. Il veut gagner le Tara. Il a battu un record,
Jérôme, d'ailleurs.
Il a battu ses données. Il a battu le com du Tourmalet. Alors, ça vaut ce que ça vaut. C'est pas la même époque. C'était en course. Et là, c'est à l'entraînement. D'accord. Si on se la donne. Bon, mais ça veut dire un truc, Adrien, c'est qu'il est en grande forme.
Il a des cannes, quoi.
Après, il est accompagné par son équipe. Les il vient de passer trois semaines en Sierra Nevada avec la même ossature. Il y aura un coureur de plus puisque on est 7 sur le Dauphiné, on sera 8 sur le Tour. Mais néanmoins, il y aura une équipe très forte autour de lui, celle qui va l'accompagner sur les trois semaines de juillet. Donc, on va déjà poser sur la route ce qu'on a posé en stage, c'est-à-dire cette cohésion d'équipe, etc. Et puis, il y a la récupération. Avant, Eric, le Dauphiné, qui s'appelait le Dauphiné, il y avait 8-10 jours entre l'arrivée du Dauphiné et le départ du Tour. Maintenant, il y a 3 semaines. Donc, tu as largement le temps de récupérer et je dirais même de refaire une petite prépa pour le Tour puisqu'il va y retourner, il va aller à Tignes. Ensuite, il fera l'impasse sur le championnat de France pour aller se préparer une dernière fois en altitude avant le départ du Tour. Donc, tu peux te la donner pendant une semaine en donnant tout parce que le Dauphiné, le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes était un objectif dans la saison pour Paul Sexas. Et on le sait, il a gagné enfin une course World Tour, ce qu'avait pas fait un Français depuis de nombreuses années, depuis Christophe Moreau. Paul Sexas l'a fait autour du Pays Basque. Mais ça fait depuis Christophe Moreau qu'un Français n'a pas gagné le Dauphiné, le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, Paul Sexas se l'est mis en tête. Et il aura le temps après de récupérer. Donc évidemment, il est favori de cette course. Il a besoin de se rassurer lui aussi. Et quand un champion de la sorte a besoin de se rassurer, on en témoigne Pogacar et Vingegaard. Normalement, il éclate tout le monde, donc c'est ce qu'on attend un peu.
Vu comme il est fait, Jérôme, en plus, on l'a eu en interview plusieurs fois, à chaque fois qu'il s'élance sur une course, maintenant, depuis quelques mois, il dit mais il n'y a pas d'histoire de préparation, de quoi que ce soit dans son discours. Il dit moi, je m'aligne, je vise la victoire.
Tu as raison.
Peut-être que c'est une erreur aussi de faire ça parfois, hein, parce que
parce que
tu places la barre.
Oui, mais Adrien, le problème, c'est que de toute façon, il sera attendu au Tour. Il gagne le Dauphiné ou pas, au Tour, il sera attendu. Et lui, il va pas être la surprise s'il gagne le Dauphiné. On n'attend que ça. Ça va être juste confirmé qu'effectivement, avant le départ du Tour, il y a 3 mecs, et c'est déjà le cas dans toute la presse et dans la bouche de tous les directeurs sportifs et managers des équipes. Il y a Pogacar au-dessus, et ensuite, où va finir Sexas ? Devant ou derrière Vingegaard ? Donc finalement, ce Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est juste la confirmation que Paul est devenu ce 2e, 3e larron du cyclisme mondial.
Et puis tout le gratin a déjà gagné cette compétition du Dauphiné.
Ouais, c'est vrai. Après, ce qui est intéressant aussi, Jérôme, c'est que tous les outsiders sont là pour gagner le Dauphiné, pas juste pour se préparer, pour faire une course de plus.
Oui, c'est et puis en plus,
Del Toro et Ayuso, ils veulent le gagner aussi.
Bien sûr, et Del Toro, c'est l'opportunité de l'année, parce qu'on le sait, il va sur le Tour, mais il va être équipier. Et moi, je me pose la question, comment a-t-il préparé cette deuxième partie de saison en sachant que probablement, et pour connaître un petit peu le vélo, même si je ne fais pas partie des grands,
il y a moyens.
Quand tu prépares une course comme le Tour en tant qu'équipier, tu ne fais pas les mêmes efforts, tu ne travailles pas dans les mêmes zones. Donc, est-ce que Del Toro aura le moyen physique de battre Paul Sexas en haute montagne notamment ? Ce sera difficile. Et il y a un chrono de 28 km sur ce prochain critérium du Dauphiné, en tout cas Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Il est bon là-dessus, Sexas aussi.
Et il a été champion du monde chez les juniors. Et il est meilleur rouleur que les deux autres.
32-16, Alexandre, attendez-vous une victoire de Paul Sexas sur le Dauphiné. Un bon rouleur.
Il y a des gros mollets, Pierrot, c'est un sprinter.
À une époque, je roulais, mais pas sur la route. Alexandre,
il roulait beaucoup, Pierrot.
Ouais, salut les copines. Ouais, à l'époque, Pierrot, tu roulais sur un moustache. Alors, et puis un jour, tu l'accrochais à un poteau. Et le poteau est resté, mais pas le vélo.
C'est vrai, c'est Alexandre, ouais, on connaît.
Il avait la moustache.
Notre Alex. Fais-la, Alexandre, le cycliste.
Voilà.
C'est une soirée spéciale, donc, ça, quand tu roules sur un moustache. Hein.
Santé, soirée,
Jérôme. C'est une soirée moustache.
Alors, vas-y. Polo, il est là. Polo, il est là pour essayer de performer. Alors, vous avez presque tout dit. Effectivement, Del Toro, faut qu'il gagne, celui-là, parce que au mois de juillet, il va juste porter les bidons. Et Polo, soit il gagne, et alors là, tout le monde va s'enflammer. Et puis s'il gagne pas, qu'il fait 2-3, ça ira. Ce qu'il faudrait pas, c'est qu'il prenne un éclat sur une sortie, qu'il prenne 5 minutes. Et là, tout le monde va dire, ah, c'est bon, tout le monde s'est enflammé. Oui, mais moi, je crois pas qu'il va s'en prendre. Voilà. Mais après, moi, j'ai une question pour Vincent. Est-ce que tu penses, pour 2028, que Polo, il peut aller faire un peu de rugby à 7 après?
Eric qui va répondre.
Non, mais attention, il faut qu'il s'inscrive maintenant pour les Jeux Olympiques. Ou bien le barré, pas les
Alex.
Deux.
Alex, arrête de chier sur le rugby, s'il te plaît. Parce que là, ça va l'énerver, le gros. Alors déjà,
merci qu'il Alex. Est
rejoint, là. J'ai la larme qui me coule.
Merci Alex, merci Jérôme Pinault. Et on va retourner à Roland Garros. On est dans le 3e set de la première demi-finale entre Zverev et Mensik. Eric Salio, ça rate
7-5-6-2, effectivement, pour Sacha Zverev. Et Oh là là, et les kinés arrivent pour Mensik, qui mène 2-1 dans le troisième, mais ouais. Alors le kiné, c'est médecin, bon, non.
Ah, c'est les cervicales, semble-t-il.
Ostéo, donc.
Oui, ouais, effectivement, ça arrive juste cervical.
2-7-0 Zverev et 2-1 Mensik dans la troisième. Dans un instant, on part à Monaco, où, pour une fois, Ferrari est favori d'un Grand Prix de Formule 1. À tout de
Il
suite.
Il est 16h25, le Super Moscato Show, on revient tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 16h31, le Super Moscato Show, on y revient, bien entendu. Pierrot, bien sûr, Eric Dimeco, Stifou Lébrun, Adrien. Pierrot, dans demi-heure, fais-moi claquer le programme.
Défaite face à la Côte d'Ivoire, que vaut cet avertissement? 32-16, direction Monaco.
RMC, le Mosca
Zap.
Où l'on retrouve Nicolas Paolorsi pour le Grand Prix de Monaco dimanche. Hello Nico.
Salut le Super Moscato Show.
Salut.
Alors, Grand Prix parfois sans dépassement, où ça se joue souvent aux essais qualificatifs. Alors, la curiosité et l'intérêt peut-être de ce Grand Prix, c'est que pour la première fois de la saison, Ferrari est présenté comme favori.
Exactement, et c'est une surprise, hein, parce que les résultats de la Scuderia Ferrari sont vraiment décevants depuis le début de saison. Certes, Lewis Hamilton a réussi à monter sur le podium au Canada, mais globalement la Scuderia est dans le dur, et même Charles Leclerc hier au micro des médias a concédé que cette fois Ferrari allait pouvoir jouer quelque chose.
Non, je crois que nous sommes dans une meilleure position pour gagner. Je veux dire que s'il y a une piste où je parierais sur nous, ça serait probablement Monaco. Quand bien même, je pense que Mercedes a toujours un avantage significatif, comme depuis le début de la saison. Donc je pense qu'ils seront toujours très forts. Je pense que McLaren sera aussi très fort, Red Bull également. Et sur d'autres circuits, jusqu'ici, nous avons eu du mal, notamment sur les lignes droites, ce qui devrait moins être un problème ici à Monaco. Et nous avons un très bon package châssis, mais aussi aéro, qui, je pense, pourront nous aider. Mais Mercedes reste selon moi l'équipe à abattre.
But Mercedes, I think, will still remain the team to beat.
Bon, il fait un peu de langue de bois, hein, Charles Leclerc, mais la première séance d'essai libre a confirmé que Ferrari était au-dessus du lot pour l'instant, puisque Leclerc a terminé en tête de cette première séance d'essai devant Lewis Hamilton à 2 dixièmes seulement, 3e Max Verstappen, et les Mercedes sont un petit peu plus loin. Donc ça prouve que Ferrari a de la marge avec des développements, avec un circuit que Charles Leclerc connaît par cœur, hein, on l'a vu sur cette première séance d'essai passer à 5 cm, 4 cm des murs ici. Il est chez lui et c'est le grand favori.
Vincent, on y croit ou pas?
Bon, on y croit. C'est oui, on dit qu'il est favori. Moi, je veux bien que la voiture, mais enfin, McLaren est quand même devant. Je sais pas, moi, si sont aussi favoris que ça. Avec la saison qu'ils font, c'est quand même très moyennasse. Alors, pensez qu'à Monaco, ils sont favoris. Peut-être qu'ils sont un peu mieux sur ce circuit que sur les autres. Mais te dire qu'ils sont favoris, alors là, je mettrais pas quand même un énorme billet. Hein.
Eric?
Non, mais on a compris que le circuit et les spécificités de Monaco leur convenaient bien. Ça gomme un petit peu leur déficit. Non, moi j'ai hâte de le voir du coup avec cette nouvelle formule, avec du coup la règle qui change un peu pour Monaco, pour voir un peu ce que ça donne. Après Monaco, tu sais, le problème restera toujours le même.
On a surtout hâte de voir les qualifs, Eric.
Ça se joue souvent au qualif.
Voilà. Après, si c'est Bézu après.
Voilà. Donc, mais ça fait rien. J'ai envie de voir avec la réglementation qui change juste pour ce Grand Prix, voir un peu si ça change vraiment. Et puis c'est quand même toujours mythique. Voilà, moi ça, je trouve
les bateaux,
ce Grand Prix. Ouais, oui, c'est
intense. Et juste les amis, gros crash d'Isaac Hadjar en première séance d'essai. Hein. Il a complètement plié sa Red Bull. Il a pas maîtrisé sa voiture. Non, pas blessé, mais par contre la voiture a pris cher. Je suis pas sûr qu'il prenne le départ de la deuxième séance d'essai et pas avoir de séance d'essai à Monaco de réglage, perdre de la confiance comme ça en plantant et en détruisant la voiture, c'est jamais bon signe quand même pour le week-end.
Merci Nicolas.
Peut-être avoir une bonne assurance, je te le dis.
Ah, ça reprend tout juste à Roland Garros après une interruption hein, pour soigner les cervicales de Yacoub. Coupe Mensik est toujours 2-7-0 pour Zverev. On zappe la Formule 1. Alors, on va s'intéresser alors aux élections du Real Madrid. Vincent, ça se passe dimanche. Il y a deux candidats, hein, puisque sur les dernières élections, eh bien, Florentino Pérez était seul en lice. Là, il a un concurrent qui est un entrepreneur de 37 ans qui s'appelle Enrique Riquelme. Il sera élu dimanche, le prochain président, pour 4 années. Et comme dans une élection politique, il y a des promesses faites par les candidats. Riquelme a promis Erling Haaland. ce qui a été démenti par le père du joueur dans la foulée. Florentino Pérez lui va très très loin. Florentino Pérez a annoncé une recrue galactique, je le cite, la plus grande offre de l'histoire du Real.
D'accord.
Il a dit, je vais faire une offre à un club important de Ligue des Champions, sûrement dès mardi. Ce sera le montant le plus important jamais payé par le Real pour un joueur. 150 millions au moins. Un offensif qui se projette du milieu vers l'attaque.
Solisé.
Et effectivement, les médias espagnols parlent de Michael Olise.
Ça, c'est fou, hein.
150 millions, Olise.
Mais ce qui est fou pour Riquelme, qui est prétendant à la présidence, c'est-à-dire que tu annonces Erling Haaland alors que tu as Mbappé déjà dans ton équipe.
Oui.
Comment il l'a pris, Kiki?
Non, puis même l'autre.
Mais c'est fou, c'est en fait, c'est une campagne électorale.
C'est fou.
Mais non, mais il ment. C'est une campagne électorale, t'as dit. Donc tu mens. Donc il ment. Voilà, c'est normal.
Donc il ment.
Après, est-ce que le Bayern, sur 150 millions, on serait prêt à lâcher Olise?
Oh, tu lâches pas Olise, non?
Oui, bon, après, ça se réfléchit quand même, les gars.
150, c'est beaucoup, hein.
150, ça fait quand même. Hein.
C'est leur meilleur joueur, c'est leur star maintenant.
Ils n'ont jamais touché le 150 bâtons, le Bayern.
Non.
Puis en plus, c'est un club qui est très sain économiquement et qui sait compter. Donc pourquoi pas. Après, on le connaît le problème, parce que là, bien sûr que ils vont te vendre des attaquants, mais
ça à un moment donné, en fait,
tu peux pas les empiler. Et surtout que le problème du Real, il est quand même.
Non, mais c'est une promesse aussi, Konaté. Hein.
Donc il y aurait même Mbappé, Vinicius.
Pour le moment, ils n'ont pas pris. Non, mais il faut falloir qu'ils prennent des défenseurs, quoi.
Bellingham.
Là, on aurait pu être sûr qu'ils ne mentent pas. C'est Cyril Calmé, il avait dit, moi, je viens avec Balardi et Habib Bey. Là, c'est sûr qu'on aurait pu le croire.
Oh, il parle de l'OM.
Oh là là là.
Ça faisait longtemps, Eric.
Quel sale mec, mais je te jure.
Mais est-ce que
moi, tu sais quoi, je vais te dire. Moi, j'en ai marre que tu chies sur mon club.
Parce que Eric, c'est un fou, Eric.
Est-ce que Florentino Pérez est un peu largué, parce que Florentino Pérez, attention, il a toujours fonctionné comme ça, hein. C'est pas du tout parce qu'il y a des élections, non, il a toujours pris les meilleurs joueurs à des prix
délirants.
C'est le pompe,
je crois. Hein. Là, je pense qu'il faut qu'il dégage, là, il s'accroche avec des promesses, là, ça fait vieux.
79 ans, il a. Alors, c'est lui qui a provoqué les élections, hein, je vous rappelle, hein. Il a été élu il y a un an.
Ouais, mais s'il les provoque, c'est qu'il pense qu'il va le repasser. Autrement, ils n'auraient pas provoqué.
Oui,
ça veut dire qu'il est équipé financièrement, parce que pour se présenter, je crois qu'il faut un certain nombre de pourcentages de patrimoine par rapport au.
Il faut garantir, il faut assurer, je crois, 15-20% du budget du Real. Ouais. Et donc, il vient avec une garantie financière de 190 millions d'euros.
Il a 37 ans, il est équipé.
Certains médias espagnols disent que c'est Mourinho, qui n'a pas encore signé au Real, on est d'accord, hein, qui aurait dit à Pérez, Olise. Même foncer sur Olise, c'est moi je le veux. Ce serait une demande de José Mourinho, le futur coach du Real Madrid.
Et alors après, aujourd'hui, quand il y a un joueur comme Olise, il vaut mieux être au Bayern ou au Real?
À Paris. Il vaut mieux être à Paris.
Ouais. Il vaut mieux être avec Deschamps. Ça fait Deschamps Olise.
Ouais, bien sûr.
C'est très bien. Et moi, moi je préférerais en fait,
au Real. Ouais, quand même, non. Encore.
Ah ouais?
Ah, quand même.
Ah, non, même au niveau culturel, ce club
est... le Real est un plus grand club que le Bayern.
C'est
dans
ce
les grands clubs.
Bien sûr.
Oui, le Bayern aussi, c'est un immense club.
Non, mais aussi, sauf que la vie en Espagne, c'est sympa quand même aussi, tu vois.
Il y a ça aussi.
Bien sûr, au niveau, c'est ça, c'est plus proche de l'Allemagne.
C'est les Wurtz, quand tu en as mangé, tu sais, les saucisses. Là,
Munich, c'est sympa. Munich, la Bavière, c'est magnifique.
Oui, mais bon, il manque la boule jaune quand même.
Le soleil.
Comme aussi.
Alors, on zappe Florentino Pérez et ses promesses. Deux petites infos rugby. D'abord, ce week-end, pour le déplacement au Racing, le Stade Toulousain fera sans Paul Graou ni Antoine Dupont, tous les deux préservés à cause de la pelouse synthétique. Donc le dernier match de Dupont, c'est le 9 mai au Vélodrome contre Toulon. 9 mai pour une demi-finale dans 15 jours. Hein.
Ah, Pierrot, ne me cherche pas, ne commence pas, parce que je vais dire des choses vilaines sur le rugby. Après, Vincent va se mettre.
Il ne veut pas signer au loup, Graou.
Mais pour le coup, Vincent, il y a un vrai sujet sur Dupont.
Non, mais t'as une super pêche, là.
Vincent, sur Dupont, ça veut dire que là, il joue pas au Racing. Ça veut dire que son prochain match, a priori, si tout va bien, c'est la demi-finale du top 14. Il aura pas joué en top 14 depuis un mois et demi. C'est long sans jouer quand même avant un match de ce niveau-là.
Je vais te dire, les moutes.
Pour le stade toulousain, je vais te dire, elle est. Non, mais oui, bien sûr, s'il est pas 100%, je vais te dire, ils vont galérer. Alors, il y a le petit qui est pas mal, Graou qui est pas mal, mais comme il jouera pas, c'est pas bon signe du tout.
Ça fait un moment que tu les sens pas bien, les Toulousains, toi.
Non, je les sens pas parce que je les sens pas, c'est toute l'année, je les ai pas sentis. Ça fait un petit moment ça fait 2-3 mois, là, je me dis, il y a quelque chose qui marche plus, là.
Une info de la dépêche.
Il y aurait eu la classe avec Fabrice, t'aurais Stephen.
Une info de la dépêche du midi qui va te faire plaisir, je pense, Vincent. D'après la dépêche, les demi-finales 2028 du top 14 auront lieu à Barcelone au Camp Nou, 105 000 spectateurs.
Là, c'est déloc obligatoire pour le Moscato Show, par contre.
Ah, bah là, c'est déjà sûr.
Ah, ouais, puis alors, c'est sûr, avec l'équipe de PS qu'on a au sommet, t'es sûr qu'on y est déjà. Là, c'est sûr. Là, écoute-moi, on a que des crabes.
Bon, ça remplit 105 000, non? Quels que soient les clubs, non?
105 000? C'est beaucoup, 105 000.
De quoi? Pour les demi-finales?
Ouais. Mais genre, si t'as le
Racing. Écoute-moi, ils en demandent chaque année 400 000.
Si t'as Racing, tu remplis, tu penses?
105 000.
Oui, parce que en fait, c'est tout vendu avant, mais la plupart.
C'est tout vendu avant.
Oui, c'est vendu avant. Et à la limite, comme il y a 4 équipes, les mecs, ils vont même avoir la demi-finale.
Ah, ouais, le rugby, c'est bien finalement. C'est sympa.
Quand il y a 4. C'est pas la peine de vous flatter pour nous avoir mis minable hier. C'est pas la peine de te racheter.
Allez, dans un instant, Journal Moyen 2 édition. Et puis on va retourner à Roland Garros.
Service après-vente du Moscato Show. Et donc, Pierrot, Suzanne Folie est revenue aujourd'hui.
Mm-hmm. Non.
Elle a travaillé, elle a écouté les dernières interventions de Deschamps. Elle me dit, c'est pas terrible. Elle te propose un 20 secondes de Didier et elle me dit, c'est Pierrot qui va juger si c'est bien ou pas. Voilà.
Je juge avec grand plaisir.
Après, bon, un petit problème sur Côte d'Ivoire. C'est pas passé crème.
Les États-Unis aussi, je crois. Hein.
Je sais pas.
La crotte d'Ivoire.
La crotte d'Ivoire, ça va faire mal.
La crotte d'Ivoire, ah ouais, 16h42. Le super Moscato Show revient tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, le super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 16h46, mon petit Pierrot.
Avant le journal moyen, Roland Garros avec peut-être le retour dans la partie de Yacoub Mensik, Sarah Pitkovski, Eric Salio.
Absolument, 2-7-0 Zverev, 7-5-6-2, mais 4-2 Mensik, puisqu'il vient de réaliser un superbe jeu, Sarah. Hein.
Oui. Et après cette sortie du cours pour aller dans les vestiaires se faire soigner, eh bien, Yacoub Mensik s'est peut-être aéré la tête et il a breaké sur le coup qui fonctionne le mieux depuis le début du tournoi, enfin le début de ce match, c'est l'amorti. Voilà, la petite amorti qui a validé le break du côté du Tchèque. Maintenant, il faut qu'il valide son service pour tourner à 5-2.
C'est bien parti, il y a 30-0, ça.
C'est bien parti. Franchement, on ne voyait pas bien comment il pouvait retourner la situation. Non, ça, c'est une nouvelle amorti, mais manquée.
Et ça a relancé cette partie, et le public s'est réveillé.
Oui, parce qu'on s'endormait un petit peu aussi, nous. Hein.
Très bien. Le break dans la troisième pour Mensik. Journal Moyen, deuxième édition.
La deuxième édition du Journal Moyen, service après-vente du Moscato Show d'hier. Quelques petits cadeaux. Les Bleus veulent négocier avec Didier Deschamps un sujet NBA. Et puis, 16h55, première question du Kikadi du jour. Pierre Dorian est en route vers un grand chelem aujourd'hui. Si Pierre Dorian gagne le match, c'est grand chelem.
Tu souhaites être associé à qui pour ton grand chelem?
Franchement, je peux le faire avec n'importe qui.
Voilà.
Même avec Eric.
Franchement, ouais.
Vous écoutez RMC, c'est le 2690e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show.
En direct live, en plein milieu de la rédaction d'RMC, toutes les infos que vous n'avez toujours pas entendues sont dans le journal moyen. Deuxième édition.
On débute avec le SAV du Moscato Show d'hier. Bonjour.
Bonjour.
Les reporters d'RMC, les journalistes ont peur du journal moyen. C'est le cas de Valentin Jamin hier. Sujet sur l'équipe de France, rien de compliqué. Mais il est en stress. Il sait qu'il va tomber dans le journal moyen.
La première, c'est que William Saliba, il a un pépin au dos, donc il ne jouera pas. La deuxième, c'est que donc les 6 finalistes de la Ligue des Champions sont arrivés il y a 2 jours. Ouais, là, je suis bon pour un jingle, là, je suis mort.
T'es mort, Valentin. C'est le journal moyen. La Ligue des Champions. C'est propre, c'est tout propre. Ouais, bon. Le Moscato Show, c'est une émission familiale et on partage tout, nous, la famille du Moscato Show. Hier, 17h51, en plein Kikadi. Surprise, Vincent, on entend une petite voix. Égalité un partout. Kikadi. Bah, je connaissais.
Moscato Show.
Ah, bah, il y a un petit garçon, une petite fille qui nous dit bonjour, le Moscato Show. Voilà. Allez, c'est hop. Les petits enfants de 20 ans. Qui a dit?
Moi, je vais faire aboyer mon chien, moi,
j'ai
l'autorité.
J'ai l'impression que le gamin, il était à deux doigts de prendre un renard lifté.
C'était un des. C'était un des petits-fils de. C'était lequel, Vincent? De Vincent.
Le grand.
C'était Dieu? C'était Dieu?
Non, c'était Paul. Paul. Très joli prénom, Paul. Service après-vente du Kikadi. Et honte à vous hier, parce que c'est bientôt le bac, et vous allez me réviser vos leçons d'histoire. Hier, je vous demandais en 1959.
Oh ouais, Debré.
Je vous dis, le général de Gaulle est président en 59. Qui est son premier ministre qui est nommé? C'était Michel Debré. Vous êtes nul, et écoutez une des réponses de Pierrot Dorian également. Qui était son premier ministre?
Pompidou,
Mesmer.
Son premier ministre.
C'est quoi? C'est un.
Alors là, je sais pas.
Quand
je
Chaban Elmas.
Non.
Chirac. Mais
non. L'amiral Michel.
C'est évident.
C'est 4-8. Debré. Il y en avait
la
pas.
Souffrance de Vincent. Michel Debré. Le père
Michel
de.
Michel Debré.
Ah, mais ça, c'était pour toi.
La souffrance de Vincent. Et Pirot a préposé Jacques Chirac.
Il avait 26 ans.
Et après, de suite après, c'était Gabriel Attal.
Mesmer, c'était arrivé avec Salon Berti. Mesmer, l'hypnotiseur.
Non, il y a Mesmer avant. C'était. Révise tes conditions.
Il y a Mesmer, oui.
Sans transition. J'ai écouté Rotten sans flamme.
Chaban, il a été. Ouais.
J'ai écouté Rotten sans flamme sur RMC, 18h-20h. Manu Petit veut nous parler de cet entraîneur belgo-britannique qui a entraîné Reims et Lens. Il a 33 ans. Will, mais Will, comment, Manu?
On parle pas de Liverpool, Manu.
Non,
on parle
de Cristal. C'est comme Régis Lebris avec Sunderland.
Mais d'accord.
C'est comme Will Smith. Ouais. Comme il s'appelle.
Will Smith.
Mais c'est comme tous les entraîneurs français.
Will Smith, bien sûr, célèbre entraîneur de foot.
Ouais.
Allez, la Coupe du monde de foot. États-Unis, Mexique, Canada, J-6. Jingle.
An orange, a café.
We will make America great again.
An orange juice, and a café.
Allez, vous allez vous mettre dans la peau de Didier Deschamps qui va devoir peut-être prendre une décision pendant la Coupe du Monde, Vincent. C'est la vie quotidienne des Bleus. Hier, en conférence de presse, on apprend que les Bleus vont peut-être vouloir négocier avec Deschamps une faveur. Premier match de l'équipe de France de foot, c'est à New York, c'est le 16 juin, France-Sénégal. Match important. Koundé sait que la négo va être compliquée. Une histoire de NBA, écoutez.
Je sais pas si t'as vu le potentiel match 6 et quelques heures après le match contre le Sénégal. Est-ce que vous avez essayé de négocier avec Didier une virée au Gardens?
Aïe.
Non, on n'a pas pour la fin de la question. Non, on n'a pas négocié avec le coach.
Pas encore.
C'est une négociation, je pense, très difficile.
Aïe.
Oui, bien sûr, on suit.
Ils suivent la NBA, les joueurs de l'équipe de France. Est-ce que si vous êtes Deschamps, si ça se passe bien face au Sénégal, est-ce que vous êtes dedans? Non.
Non, c'est un premier match de poule. Mais tu es sérieux? Tu vas lâcher tes ouais comme au Garden
4 jours après. Ouais, après,
c'est pas la festa.
Au Garden, ils vont être filmés partout. Si jamais ça se passe mal après, c'est un carnage.
Carnage. Donc devant la télé.
Bah oui, devant la télé. En plus, c'est un horaire décent pour eux. Ils vont le regarder.
Vous êtes sévère, hein? Bravo.
T'es pas d'accord, Pierrot?
San Antonio. Nick.
Non, moi je suis pas d'accord.
Vincent, si je suis en tournée à New York avec le média football,
moi je suis à New York,
je vais voir un match de NBA, je dis oui.
Après le Sénégal,
je vais en groupe. Ah ben c'est à 4 jours, ça va, ouais, c'est bon.
Tranquille, okay. T'es pas obligé de faire la fiesta.
Ça leur change les idées. Tu vas ensemble, tu dis par contre à telle heure tout le monde au quart. Regardez que c'est sifflé, tout le monde dégage. Et puis voilà.
Après, je suis pas sûr qu'ils aient les moyens.
New York, ils sont à New York.
Je suis pas sûr qu'ils aient les moyens d'acheter des places, par contre.
Non mais ils sont à New York.
Oui, New York.
Non mais la Fédé. Par contre, t'as raison. Si la Fédé casque. Ah ben après ils ont.
Non mais ils sont invités. Donc
Tu penses qu'au Garden sur
non, mais moi, alors là, vraiment, je trouve que c'est pas très dirigeant.
D'ailleurs, un quota pour
Ils vont faire un mois ensemble. Mm. Ça peut faire partie d'un truc qui te file un petit coup d'air.
Autant aller au tournesol.
Les audiences de l'équipe de France hier, la Côte d'Ivoire, France-Côte d'Ivoire. Bon, ça va cartonner la Coupe du Monde. C'était sur TF1, 21h10. 5,2 de moyenne. 48% de part d'audience sur les 25-49 ans. C'est le record pour un match amical depuis 10 ans pour les Bleus. Je pense que les patrons d'M6. Je pense que les patrons d'M6 qui vont diffuser la Coupe du Monde et les Bleus vont se frotter les mains. Pierrot, c'est Suzanne qui est revenue travailler, Suzanne qui était en repos hier, Suzanne Folli. Elle a écouté un peu les dernières interventions de Didier. Jingle Didier.
Et la Dream DRC. Ah. Et la Dream Team DRC. Non, j'ai arraché.
On va écouter Didier Deschamps, mais d'abord, il y a une balle de 7 pour Yacoub Mensik pour revenir à 2-1 à Roland-Garros, Sarah Eric.
Absolument.
Il y en a même 3.
Ouais, 5-3, 40-0 pour Yacoub Mensik qui fait beaucoup de services volés et ça paye, même si Zverev n'est pas manchot en retour. Mais là, je pense. Elle est bonne. Oh, j'ai cru que le coup droit de Zverev allait sortir, donc l'échange se poursuit d'ailleurs en difficulté Mensik, mais il remet quand même la balle avec Zverev qui va appuyer. Ça ne suffit pas, Mensik qui tient, c'est une balle de 7, il faut absolument qu'il recolle maintenant pour avoir le soutien.
Et une 15e abortie, oui, la 15e.
2-7-1, demi-finale totalement relancée.
Attention, 2-7-1 donc pour Zverev face à Mensik.
Donc Pierrot, Didier Deschamps, Suzanne m'a dit c'est pas le meilleur, 20 secondes de Didier, donc tu le veux, mais tu nous dis si c'est pas mal ou pas.
Vous êtes des vrais connaisseurs.
Les dernières interventions de Didier autour de la Côte d'Ivoire, du match amical et tout et tout.
Écoutez, Kylian est en pleine forme. De par ce qu'ils font, ce qu'ils réalisent vers le club ou ce qu'ils ont pu réaliser. Je suis pas agacé, je serais pas euphorique en gagnant non plus. Oui, la Côte d'Ivoire est toujours une des meilleures nations. Le fait que ça soit les États-Unis, que ça soit loin, il y en a d'autres qui mérite des rillettes.
Pierrot, c'est un puriste, hein. Tu valides ou pas?
Moi, je suis euphorique. Je sais pas vous, mais moi, je suis euphorique.
Le mec, il croyait qu'il était au Maï. Il a dit, il y en a qui méritent des rillettes.
Tu veux le réécouter ou pas?
Non, mais Eric, quand même.
Écoute, rapide.
Eric.
Allez, rapide.
Non, mais c'est pas rigolo.
Vite fait.
Écoutez, Kylian est en pleine forme. De par ce qu'ils font, ce qu'ils réalisent vers le club ou ce qu'ils ont pu réaliser. Je suis pas agacé, je serais pas euphorique en gagnant non plus. Oui, la Côte d'Ivoire est toujours une des meilleures nations. Le fait que ça soit les États-Unis, que ça soit loin, il y en a d'autres qui méritent des rillettes.
Des rillettes. Il y en a qui méritent des
rillettes.
Pour tout le monde. Allez, soirée rillettes ce soir. Tout le monde a des rillettes.
La première citation du Kikadi du jour.
Tu valides.
Kikadi. Vous êtes prêts? Chacun pour soi. Je vous rappelle l'enjeu aujourd'hui. Il est 16h56. Dans moins d'une heure, Pierre Dorian disputera un match pour l'histoire.
L'étuste.
Pour un grand chelem. Kikadi. La pression est clairement sur La Rochelle.
Makalou.
Sékou Makalou. Sékou Makalou, un des cadres du Stade Français Paris. Il avait noté, il avait travaillé. Je vous annonce que Pierre Dorian.
J'ai montré mes tus à Stephen et ça n'a pas percuté.
Très très dur à battre pour ce grand chelem. C'est l'histoire de ce sport qui se joue à 17h45.
Le cadeau. Moi je vais te dire, ça fait peur. Hein.
Le cadeau, c'est une semaine pour 4 personnes dans un des 100 VVF de France. Kikadi par SMS au 7-32-16. On va se régaler dans cette troisième heure puisque Mensik est revenu à 2-7-1 face à Zverev et puis débat sur l'équipe de France. Cette défaite face à la Côte d'Ivoire. Que vaut cet avertissement 32-16?
Oui, il est exactement 57-16 heures. On revient tout de suite.